Allô, allô, ici Ciné Herry.
En 1952, René Clément présente Jeux interdits. On lui doit déjà à l'époque La bataille du rail, un long métrage tourné en 1946 à la gloire de la résistance des cheminots français pendant l'occupation. Pour réaliser son sixième film, le metteur en scène a fait appel à Jean Oranche et Pierre Bost qui ont collaboré avec lui à l'écriture du scénario. Il s'agit en fait d'une adaptation cinématographique du roman de François Boyer, paru en 1947 et intitulé initialement « Les Jeux inconnus ». La musique, qui a donné lieu à une mélodie si célèbre, est composée d'arrangements de diverses partitions choisies et interprétées par le guitariste Narciso Yepes. Cette œuvre a connu d'emblée un succès mondial. En effet, elle a reçu de nombreuses distinctions dès 1952, comme l'Oscar du meilleur film étranger, le Lion d'or à la Mostra de Venise, le Grand Prix indépendant du Festival de Cannes, ainsi que le prix du meilleur film français et étranger décerné par la critique américaine. Puis en 1953, le prix de la critique japonaise lui a été accordé, ainsi que celui du meilleur film mondial attribué par la critique anglaise. Enfin, en 1954, il a été honoré du BAFTA du meilleur film. Rappelons brièvement le synopsis. Au cours de l'exode de 1940, un convoi de civils est mitraillé sur une route par l'aviation allemande. Parmi les victimes se trouve Paulette, une petite fille de 5 ans. Elle voit ses parents mourir sous ses yeux et à ses côtés. Puis elle s'éloigne des adultes et part errer dans la campagne, serrant dans ses bras le cadavre de son petit chien. Elle rencontre alors Michel, un garçonnet de 10 ans. Ce dernier l'emmène vivre dans la ferme de ses parents, qui finissent par accepter de la recueillir momentanément, malgré quelques réticences initiales. Elle restera quelque temps auprès d'eux, avant d'être finalement emmenée dans un centre pour réfugiés. Elle sera ensuite confiée à la Croix-Rouge, qui la conduira dans un orphelinat. La particularité de cette œuvre tient au fait que la Deuxième Guerre mondiale, au cœur du film, s'avère directement peu présente, voire absente à deux exceptions près. Elle surgit principalement au cours de la première séquence, lorsque les Allemands bombardent les civils qui tentent de fuir l'avancée des troupes ennemies. Ensuite, l'on voit apparaître le fils des voisins Gouard qui rentre à la maison. Il est démobilisé après avoir participé brièvement à la drôle de guerre. Durant toute la durée du film, le conflit mondial est donc présent-absent. En fait, le réalisateur se centre avant tout sur les effets psychiques et émotionnels que la guerre provoque sur les individus, en l'occurrence sur les deux enfants. En effet, René Clément ne nous donne pas à voir la déflagration planétaire tant et tant de fois restituée au cinéma. Il ne s'appesantit pas davantage sur la destruction des biens et l'anéantissement physique des personnes, avec son cortège de millions de morts, blessés, mutilés et disparus. Il n'ambitionne pas non plus de proposer une lecture diplomatico-stratégique du conflit. Il ne s'efforce par exemple pas de démêler les intérêts des États ou de leur coalition. Enfin, nous n'assistons pas au choc frontal des armées ou bien encore aux efforts de résistants œuvrant pour la libération de la France, des démocraties et de leurs valeurs, ni même en faveur d'un patrimoine universel, comme dans Le Train de Frankenheimer ou bien plus tard dans L'Armée des Ombres de Melville. Le réalisateur ne se situe pas non plus sur un plan éthique où nazisme et fascisme seraient stigmatisés et dénoncés pour être associés à la barbarie comme le firent respectivement Chaplin, Melville et plus tard Louis Malle avec Le Dictateur, Le Silence de la Mer et Au Revoir les Enfants. Non, il s'agit plutôt d'une œuvre centrée sur la perte, le manque, la sidération due à la guerre. Perte des parents et du chien aimé, manque de défense pour survivre à un terrible traumatisme, manque de force pour supporter l'insupportable. Manque de repères pour qu'un enfant puisse se construire et survivre face à l'expérience de la mort. Manque de compréhension et d'écoute des adultes face à l'univers psychique d'un enfant. Interprétée par Brigitte Fosset, la petite Paulette enterre son chien dont elle a grand-peine à se séparer. Michel, le garçonnet incarné par Georges Poujouly, s'est pris d'affection pour elle. Pour ce faire, ils créent tous deux des sépultures pour tous les animaux morts qu'ils découvrent. Rats, crapauds, poussins, taupes, mouches, hérissons, etc. Michel ambitionne de leur construire un vaste cimetière pour l'offrir à Paulette, qui ne veut pas que son chien soit enterré tout seul. Le soir, à la veillée, il fabrique donc avec elle des croix à cet effet. Mieux, il vole celles du corbillard qui porte son frère en terre, car elles sont bien plus belles et resplendissantes. Il va même jusqu'à tenter de dérober le crucifix de l'église qui aurait constitué le trophée suprême. En bref, rien n'est trop beau pour satisfaire le désir morbide de Paulette et réaliser son grand œuvre. Rien n'est trop beau, en effet, pour assouvir sa passion mortifère. Michel ne s'exclame-t-il pas sur le mode ludique? On va en foutre partout. Il en faudrait d'autres, des chats, des hérissons, des lézards, des chevaux, des vaches, des serpents à sonnette, des lions, des tigres. Et Paulette d'ajouter sur un ton bouleversant, des gens. Elle est prise d'une frénésie pathologique de collectionneuse. Mais avant d'aborder ce syndrome du collectionnisme, voyons tout d'abord cette idiosyncrasie de la répétition qui gouverne cette petite fille après la disparition de ses parents et de son chien. Évoquons à cet égard ce que Freud a qualifié de compulsion de répétition. Comment ne pas revenir sur sa thèse du Forda pour souligner toute l'efficacité de ce dispositif de préservation psychique, de ce formidable mécanisme de résilience. Rappelons en l'occurrence brièvement que dans Au-delà du principe de plaisir, Freud analyse le jeu étrange d'un tout jeune enfant qui ne cessait de lancer une bobine attachée à l'extrémité d'une ficelle pour la faire disparaître, puis qu'il tirait à lui dès qu'il voulait la voir réapparaître. Un comportement étrange que ses parents avaient trouvé suffisamment incompréhensible et inquiétant pour le soumettre au fondateur de la psychanalyse. Freud souligne alors combien le bambin éprouvait un grand plaisir à répéter sans relâche sa manœuvre, tout comme Paulette que l'on voit à l'écran applaudir, rire et se réjouir à chaque fois que la sépulture d'un animal s'ajoute aux précédentes. Freud observe également qu'à chaque instant où le petit garçon jetait l'objet, il s'éclamait « fort », qui signifie en allemand « parti », et « da », qui signifie « voilà », dès qu'il décidait de le récupérer. Le thérapeute met ensuite ce manège ludique en corrélation avec les fréquentes absences de la mère. En fait, dans ce qui pourrait passer pour un simple divertissement, voire la manifestation d'un dérèglement, d'un trouble psychique, Freud discerne, lui, bien plutôt une manière de métaboliser l'intense souffrance vécue par l'enfant à chaque départ de sa mère. Il s'agit, montre-t-il, d'une technique spontanée destinée à surmonter la privation de sa mère, la disparition momentanée de cette dernière étant vécue par son fils comme une perte absolue, radicale, un abandon qui s'imposait à lui, qu'il ne comprenait pas et sur lequel il n'avait bien sûr aucune prise. Le psychanalyste voit dans le Forda le moyen par lequel le garçonnet avait réussi à juguler un trop grand chagrin, un sentiment d'abandon qui risquait de l'anéantir. Au contraire, par ce jeu, il inversait symboliquement l'ordre du déterminisme de la séquence, cessant de le subir pour en régir les moindres détails. Il devenait ainsi le maître d'un moment qu'il gouvernait dans son intégralité. Freud écrit à ce propos, « Il se dédommageait, pour ainsi dire, en mettant lui-même en scène, avec les objets qu'il pouvait saisir, le même disparition-retour. » En d'autres termes, le psychanalyste montre que grâce à cette opération symbolique, le petit parvenait à relier le réel, c'est-à-dire l'absence de la mère, à l'imaginaire, le « je voudrais qu'elle soit là et je parviens à la rendre présente par mon subterfuge ». Enfin, dans son analyse, le thérapeute insiste tout particulièrement sur le caractère consolateur de cette activité répétitive, éminemment réparatrice. Elle préservait l'enfant de toute peine affective et lui procurait même du plaisir. Plutôt que de subir, il agissait, il dominait une situation qu'il scénarisait, orchestrait et répétait ad libitum. Ce cas clinique n'a été rapporté ici que parce qu'il revêt une dimension éminemment paradigmatique. Ainsi, à partir d'un simple jeu apparemment anodin, Freud a-t-il mis en exergue une économie psychique permettant d'abréagir un traumatisme, un sentiment de perte et d'abandon consécutif à une disparition. Or, cette même logique s'avère précisément à l'œuvre dans Jeux interdits. En effet, à travers son activité compulsive et morbide, Paulette, aidée de Michel, abréagit elle aussi un traumatisme. Un traumatisme a fortiori bien plus terrible que celui subi par l'enfant du Forda, puisqu'il s'agit d'une expérience concrète de la mort. En l'occurrence, la petite fille a dû faire face à la mort en direct de ses parents et de son chien, qui constituait jusque-là son seul et unique univers affectif, le socle sur lequel sa vie commençait tout juste d'être étayée. Tous trois mitraillés devant elle, elle sait, et le jeune Michel le lui dit et le lui répète, qu'ils sont désormais partis à tout jamais, qu'elle en est donc privée à tout jamais. Certes, à la différence du garçonnet du Forda, son sentiment de perte et d'abandon consécutif à leur disparition définitive ne s'accompagne d'aucune incertitude. En revanche, il implique un douloureux sentiment d'irréversibilité. Après avoir été frappée de plein fouet par cette terrible commotion, la petite invente, grâce à son camarade, son propre culte des morts. Avec l'aide du garçon, elle organise une cérémonie commémorative bien personnelle, ce qui lui permet d'apprivoiser la mort et de s'engager, sans même qu'elle en prenne conscience, dans un travail de deuil et de construction de son identité. Mais Paulette, à la différence de l'enfant du Forda, est aussi une petite collectionneuse. Comme l'a bien montré Jean Baudrillard, la collection, c'est d'abord et avant tout un univers mental qui répond à des motifs très personnels. C'est un système grâce auquel le sujet tente de reconstituer un monde, une totalité privée. Il s'agit en quelque sorte d'un autoportrait, d'un geste intime pour soi et par soi. Cependant, n'oublions pas que ce dernier se donne aussi à voir et n'appartient donc pas uniquement à la sphère personnelle, car montrer la collection, la mettre en scène, participe également de la jouissance de la petite collectionneuse. En l'occurrence, Paulette associe Michel au plaisir intense qu'elle retire de la collection de ses sépultures, substitut de celle de ses parents. Cette collection, assortie de toute une minutieuse dramaturgie, constitue la pièce maîtresse de sa vie d'enfant au même titre que la répétition déjà mentionnée. Cette collection fait figure d'élément identificateur, de marqueur identitaire, par lequel elle se définit face au monde extérieur et notamment aux adultes. C'est pourquoi elle se donne à corps perdu dans cette activité, lui consacre du temps, de l'énergie, et la sublime avec ce qu'elle trouve de plus beau, des bijoux, des perles, de l'or. Ce collectionnisme ritualisé, qui est réducteur de désordre, de chaos, devient ainsi porteur, annonciateur de sa personnalité et de son identité en devenir. Ainsi, sa passion collectionneuse, son idiosyncrasie compulsive, lui permet-elle de faire face, tant bien que mal, à la guerre qui s'est abattue sur elle et a détruit son univers. En effet, par la création, l'organisation et la décoration des tombes, elle tente simplement de maîtriser le monde extérieur, de prendre le contrôle de sa vie, en recherchant dans la collection ritualisée une compensation à son chagrin. Comme le note Georges Balandier, par le rite, les désorganisations, les mots sont temporairement transmués. Finalement, Contrairement à la relation aux adultes, qui s'avère toujours compliquée, souvent contrariée, voire source d'angoisse et de souffrance, la relation aux sépultures collectionnées sécurise Paulette. Celles-ci représentent en quelque sorte des objets dociles qui s'additionnent paisiblement selon son bon vouloir et sa fantaisie. Elles forment des images qui se succèdent sans se contredire et surtout sans la contredire. En somme, ce cimetière compose un miroir parfait qui ne lui renvoie pas les images du réel, mais uniquement celles de son désir. C'est pourquoi, en ce tournant bien particulier de son existence, cette collection des sépultures animales devient toute sa vie. Lorsque les gendarmes viennent la chercher à la ferme pour la confier à la Croix-Rouge, ils souhaitent connaître son identité. La mère de Michel lui demande alors quel est son nom. Elle répond d'emblée et à la stupéfaction de tout le monde, Paulette Dolé. Autrement dit, elle change spontanément d'identité pour adopter celle de sa famille d'accueil. Tout se passe donc finalement comme si l'expression « jeux interdits » désignait aussi bien la compilation morbide des sépultures que l'interdiction de s'emparer d'un patronyme garant d'une identité familiale stable, tranquille, une identité ancrée dans un terroir préservé et restée jusque-là pérenne. Mais Paulette n'y aura pas droit et déclenchera simplement le rire gêné de l'assistance. Le départ inévitable de la fillette vers l'orphelinat signera la destruction par Michel de la petite nécropole. En effet, cette dernière n'avait de sens que pour Paulette. Sans elle, cet ossuaire n'avait naturellement plus aucune raison d'être et la fonction réparatrice qu'il remplissait ne pouvait plus opérer. Avec Jeux interdits, René Clément a traité de la Deuxième Guerre mondiale de manière très originale et profonde. En effet, en s'attachant à montrer l'implosion psychique d'une enfant devant la mort de ses parents, le metteur en scène a choisi d'aborder la guerre sous un angle peu exploré alors au cinéma. Là où d'autres se sont plutôt consacrés à souligner les destructions matérielles et physiques de grande ampleur, la torture, les blessures de guerre et les morts au combat, le réalisateur a préféré s'attarder sur une destruction puissante mais invisible, celle d'une identité en devenir. Le cas de la petite Paulette rejoint ainsi celui du petit Edmund Kühler, dont Roberto Rossellini nous montra en 1948 le destin tragique dans Allemagne année zéro. À cet égard, il prend donc une valeur paradigmatique, car son histoire vaut pour tous les enfants de toutes les guerres.